La chronique de l'Olivier Morel du 14 décembre 2004,
qui
a un rapport avec ça, puisqu'il va parler, bien sûr, de PDG de Unet Healthcare, fait divers, assassinat politique, passion collective. Et il va parler aussi du fameux des bandits romantiques. Et il fait référence aussi à l'historien Eric Osborne, qui avait écrit un ouvrage sur les bandits en 1972. On va écouter donc l'analyse d'Olivier Morel dès maintenant. Galère, galère.
Il y a une semaine, j'évoquais cet assassinat qui a eu lieu à côté de Manhattan, à côté de l'hôtel Hilton, près de Central Park, à l'aube du 4 décembre à 6h45, lorsqu'un inconnu a tiré sur un PDG de l'une des entreprises de couverture santé privée des États-Unis, l'entreprise United Healthcare. Donc, ce 4 décembre, un homme tire sur le PDG de United Healthcare, une entreprise qui, je vous disais la semaine dernière, pèse un peu plus de 560 milliards de dollars. C'est une des trois plus grosses entreprises de couverture santé privée aux États-Unis. Et l'homme qui est tombé sous les balles, s'appelle Brian Thompson, un homme de 50 ans qui est père de famille et qui est mort sous les balles. Alors, il en a été très peu question, d'après ce que j'ai remarqué, dans les médias français, mais ça a été une véritable saga collective aux États-Unis. Pour vous faire un dessin, les télés en parlent. Elles ne parlent pratiquement que de ça et de la chute du régime syrien. Mais on en parle également, j'ai enseigné un de mes derniers cours de l'année et il y a quelques heures, mardi, j'enseigne un cours sur la théorie et la pratique du cinéma et de la télévision. On parle du montage, du son, de l'histoire, des formats narratifs à la télévision et au cinéma, et je vais revenir peut-être sur ceci dans un moment, et j'ai évoqué avec mes étudiants le fait que le cinéma, d'après de nombreux historiens comme Marc Ferraud et d'autres, le cinéma en tant que fiction est aussi une archive historique de quelque chose qui est très important pour ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Il s'agit de ce qu'on appelle l'anxiété culturelle. Alors donc le PDG Brian Thompson tombe sous les balles, et pendant 5 jours, jusqu'à il y a quelques heures, on ignorait qui avait commis le crime, et progressivement, le masque de l'homme, on va savoir assez rapidement que c'est un homme qui a commis ce crime, le masque va tomber. Donc il y a quelques jours, on a découvert non seulement un visage derrière le masque, mais aussi un nom, un patronyme, il s'appelle Luigi Mangione, et un itinéraire biographique. Ce qui est très intéressant dans la séquence, c'est que, bon, je ne vais pas reconstituer les faits et l'itinéraire biographique. Ça, ce sont des choses que vous lirez dans les journaux, dont vous entendrez peut-être parler dans les télés, les radios françaises. Non, moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus ici, c'est le phénomène culturel. C'est le phénomène culturel dont j'ai pu évoquer quelques coordonnées il y a une semaine. Alors, il y a une semaine, j'enregistrais ce papier que je fais chaque semaine depuis le mois d'août, depuis le mois de septembre. Je l'enregistrais vraiment quelques heures à peine après l'assassinat en question, et on savait à peu près rien, mais on savait déjà, et ça c'était très important, que c'était le PDG de United Healthcare, encore une fois, une compagnie d'assurance privée qui assure les patients. Alors, il s'est passé quelque chose dans les heures immédiates qui suivent cet assassinat, à savoir qu'il y a eu une réaction très vigoureuse, massive, de la société américaine. Et quand je dis la société américaine, évidemment, ça commence sur les réseaux sociaux, mais ça va s'enchaîner aussi, pour ce que je sais, dans les salles de classe à l'université. Mes filles qui sont au lycée, elles ont 15 et 17 ans, c'est l'objet de conversations interminables entre les amis à l'école. Tout ça autour de cet événement qui, après tout, apparaît, et ça apparaît aussi dans les journaux français depuis à peu près 24 heures, dans la rubrique des faits divers. Or, ce n'est pas un fait divers. C'est un fait divers à certains aspects, mais la réaction massive, si on se règle sur la réaction massive de la population américaine à cet événement, qui est un véritable événement culturel et politique, c'est un assassinat politique, eh bien, ce n'est pas un fait divers. C'est un assassinat politique parce qu'on a retrouvé sur les lieux du crime, très rapidement, des douilles de balles sur lesquelles étaient inscrits des mots clés, qui sont des mots utilisés par les compagnies d'assurance privée pour refuser les remboursements de soins aux assurés. « Deny and delay », c'était deux des mots qui ont été retrouvés sur les douilles des balles. « Deny », ça veut dire on refuse les remboursements des soins proposés par les médecins. Et « delay », ça veut dire on délaye presque, d'une certaine façon, ça vient du français en anglais. Hein. On délaye, c'est-à-dire on retarde l'autorisation des soins, puisque les compagnies d'assurance privées aux États-Unis ont un énorme pouvoir dans la manière dont les médecins sont autorisés ou pas à traiter des patients selon les procédures que les médecins et les hôpitaux proposent. Évidemment, les patients peuvent toujours payer de leur poche, mais enfin, on s'assure et on paye une assurance pour justement ne pas être dans cette situation. Donc voilà, alors la chronique de cette semaine va commencer ainsi. Je vais prononcer quelques noms propres. Et peut-être ce côté énigmatique va se dévoiler plus tard. J'aimerais vous parler cette semaine de Billy the Kid, de Robin des Bois, de Juraj Janosik. Peut-être il y a des Tchécoslovaques ou des Tchèques ici qui écoutent et qui sauront exactement de qui je parle. De Pancho Villa, s'il y a des Latinos ou des Mexicains, ils sauront aussi qui c'est Pancho Villa. Ou je pourrais vous parler de Camille Croco. S'il y a des Italiens, ils sauront peut-être qui est Camille Croco. Ou encore, l'un des plus reconnaissables, sans doute, c'est Robin des Bois. Avons-nous affaire à un Robin des Bois des temps modernes? C'est ça la question. Est-ce que Luigi Mangione, avec la réaction populaire dont il a fait l'objet, est une sorte de Robin des Bois des temps modernes? Alors, je vais revenir sur ça dans quelques minutes, peut-être vers la fin de la chronique, mais pour souligner quand même que malgré tout, l'une des raisons pour lesquelles j'évoque tout ceci, c'est que dans les quelques heures qui suivent l'assassinat, c'est très rare dans une société. On a des milliers, des centaines de milliers de gens qui, sur les réseaux sociaux et au-delà, dans les cours de récréation, sur les campus universitaires, sur les lieux de travail, qui se réjouissent de la manière dont un homme est mort, a été tué, à 6h45, le 4 décembre 2024, à New York City. Alors, on a là une figure que j'ai évoquée il y a quelques semaines, peut-être certains s'en souviennent, certaines aussi, c'est celle de la paradiastole. La paradiastole est un grand marqueur de notre époque, puisque qu'est-ce que c'est la paradiastole? Si vous vous souvenez, on en parlait quand on parlait des guerres de religion et de la façon dont la campagne de Donald Trump utilise des termes qui sont en fait des marqueurs de l'époque. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce que Luigi Mangione reste un assassin et un criminel. Il a commis un crime, il a tué quelqu'un, il a tué un père de famille, un mari, un fils, monsieur Brian Thompson était tout ceci, et il était évidemment aussi le PDG de United Healthcare. Donc, légalement, sur le point de vue légal et politique, Luigi Mangione est un assassin, est un criminel. Mais sur la toile et dans les conversations, eh bien, d'aucuns le considèrent comme un héros, et je devrais ajouter un héros romantique. Est-ce que c'est un héros romantique à la Robin des Bois, à la Billy the Kid, à la Pancho Villa, ou à la Juraj Janosik, ou à la Camille Croco? Question. Parce qu'il est héros romantique, vraiment. Il a été même, d'après une journaliste qui a enquêté sur le sujet pour le New York Times cette semaine, beaucoup le comparent maintenant à Che Guevara, grand héros romantique par-delà l'éternel qu'on retrouve sur des t-shirts, etc., etc. Alors, pour comprendre tout ça, il faut comprendre, il faut un peu se plonger dans les posts, dans les entrées que les utilisateurs ont placées sur les médias sociaux au cours des dernières heures. J'en ai retenu quelques-uns. Alors, certains sont humoristiques, en tout cas c'est de l'humour noir ou sarcastique ou méchant dans les heures qui suivent l'assassinat de Monsieur Thompson, mais au fil des jours, ça va devenir un peu moins humoristique et peut-être plus sobre, voire plus sombre. Alors, je vais en citer quelques-uns pour avoir une idée du contexte. Par exemple, Liz Harvey, le 4 décembre 2024, dit « Oh, un PDG, les PDG maintenant ont peur de prendre des balles, hein, mais les gamins qui vont à l'école, hein, je cite hein, bien sûr, les gamins qui vont à l'école, les employés dans les magasins, les gens qui assistent à un concert, référence au concert de Las Vegas il y a quelques années, où une tuerie de masse avait eu lieu. Ben, c'est ça la vie aux USA. On a toujours peur de mourir sous les balles. Pourquoi cet homme a-t-il péri sous les balles et pourquoi ça fait tant de bruit ? C'était ça la question que posait cette personne sur les réseaux sociaux. Un autre post sur les réseaux sociaux, c'était « Vous ne pouvez pas proclamer qu'un système de santé dans lequel 42% des patients atteints de cancer perdent toutes leurs économies dans les 2 ans en moyenne. » On ne peut pas considérer que donc un système comme celui-là est un système qui fonctionne correctement. C'est un outrage à la morale. Une autre personne, et là ça va être plus utile pour nous parce que ça va me permettre d'expliquer comment fonctionne le système de couverture santé aux États-Unis, qui est un système entièrement privé. Tant qu'on n'est pas en retraite, c'est un système entièrement privé. Dès que la retraite arrive, ça bascule dans un système de protection sociale plus classique à l'européenne. Mais tant qu'on est employé et pendant la vie active, le système est entièrement privé et donc on est en quelque sorte soumis à la nécessité de souscrire à une assistance, à une assurance privée. Donc voilà un post sur les réseaux sociaux. Un post qui va expliquer comment fonctionne le système de santé et comment fonctionne le système des assurances santé privées aux États-Unis en illustrant le phénomène. Et c'est vraiment ainsi que ça marche. Donc je vais le dire de façon assez soigneuse. Voilà un utilisateur de réseaux sociaux qui dit « Ok, je cite, « Ok, moi je vais créer une entreprise dans laquelle les gens vont me payer $400 par mois pour avoir le droit de manger de temps en temps une pizza à prix réduit. » C'est ça qu'on fait, et c'est moi qui interviens là, c'est ça qu'on fait quand on souscrit à une assurance santé, n'est-ce pas ? Et là, il transpose ça comme s'il était chef d'une entreprise de pizza, qui donc offre aux gens de s'abonner, hein, de payer $400 par mois pour avoir le droit de temps en temps de manger une pizza à prix réduit. Après tout, c'est un modèle économique comme un autre. Mais les choses se compliquent maintenant. « Quand les gens veulent une pizza, écrit cet utilisateur, hein, ils doivent m'appeler pour une préautorisation et je vais leur dire où ils doivent aller pour avoir leur pizza, combien ils peuvent acheter la pizza, à quel prix et quel type de pizza ils peuvent avoir. Donc moi, le chef d'entreprise qui vous donne un abonnement de $400 par mois pour que vous achetiez une pizza à prix réduit, dès que vous avez besoin d'une pizza, je vais dicter le prix que je vous autorise à dépenser pour cette pizza et même si vous avez le droit d'acheter cette pizza selon moi, le propriétaire de cette entreprise qui propose cet abonnement aux pizzas. Alors, l'homme continue son poste et il dit « Mon entreprise paiera alors 50% de la pizza à partir de $250 de pizza achetée dans l'année. » Transposé au système de couverture santé privée aux États-Unis, c'est à peu près comme ça que ça marche. On paye des sommes qui sont énormes. Dans mon cas, c'est environ $2000 par mois pour une famille de 4. Pour avoir droit à une assurance santé pour des soins qui sont proposés par mon médecin à moi, patient, sous réserve que l'assurance santé approuve les soins et donc la dépense. À partir de là, il y a une négociation entre le médecin et la compagnie d'assurance santé et qui décide du prix des soins. Mais le médecin aussi doit être un médecin qualifié par l'assurance santé et faire partie du réseau de soignants qui sont validés par l'assurance santé. En d'autres termes, la compagnie d'assurance de couverture santé a énormément de pouvoir. Et alors à partir de là, il y a ensuite, vous avez compris avec l'exemple de la pizza, hein, non seulement la compagnie d'assurance santé ne va pas rembourser la totalité des soins, une grande partie va être à la charge du patient, mais de surcroît, il y a une franchise d'assurance. C'est-à-dire que chaque année, je dois quand même payer de ma poche si j'ai des problèmes de santé assez sérieux. Par exemple, ça arrive aussi avec les problèmes dentaires et les problèmes oculaires. On paye comme patient, et ce n'est pas l'assurance qui paye, à concurrence d'une certaine somme qui doit être atteinte à partir de laquelle l'assurance va commencer à rembourser. C'est-à-dire, en d'autres termes, si j'atteins la franchise des 2 500 $, à partir de 2 501 $, l'assurance va commencer à rembourser une partie de mes dépenses. Eh bien, c'est ça le modèle économique sous lequel on est assuré aux États-Unis. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors évidemment, à tous les échelons de ce processus, il y a des incidents. Et l'assurance va se comporter d'une telle sorte qu'elle va toujours essayer de ne pas payer. Voilà. Et connaissant ce système, les hôpitaux et les professionnels de santé vont toujours aussi, parallèlement, avoir tendance à surfacturer les soins. Alors, toutes les difficultés s'accumulent dans ce contexte. Et dans ce contexte, je vais citer un autre post sur les réseaux sociaux. Et ce post est signé. Il est signé d'un musicien, d'ailleurs, qui s'appelle Richard Huck. Et Richard raconte qu'il y a 2 ans, assuré par United Healthcare, donc cette compagnie d'assurance dont le PDG vient d'être assassiné, il y a 2 ans, à la fin de l'année 2022, il a commencé à se sentir mal. Il avait une arythmie cardiaque, il avait des problèmes de pression sanguine, de tension sanguine, etc., etc. Et il est allé voir son médecin qui a déclenché des examens et ils n'arrivaient pas à trouver ce qu'il avait. Et puis finalement, le médecin a proposé un échocardiogramme, c'est-à-dire un examen qui en fait est assez approfondi sur l'état de son cœur et qui est assez coûteux. Avec l'assurance, l'idée de cet examen, c'était que le patient, donc Richard, en aurait pour environ 200 $. Ça allait coûter environ 4 700 $ à l'assurance, cet examen. Un examen crucial pour déterminer la nature des lésions cardiaques que suspectait son médecin. L'assurance a refusé. Donc, l'assurance refuse les soins et Richard a décidé qu'il ne pouvait pas payer les 4 700 $. Là-dessus, quelques semaines plus tard, il fait une attaque cardiaque massive avec une déchirure interne de son cœur, de son aorte. Et il est évidemment hospitalisé d'urgence. Il subit des soins extrêmement lourds qui coûtent 1,6 million de dollars à son assurance, donc à United Healthcare. Maintenant, voici la fin de l'histoire et la morale de l'histoire. Question du patient de Richard à son cardiologue. Monsieur le cardiologue, si l'assurance santé avait couvert l'examen à 4 700 $ qui allait lui coûter 200 $ à lui, le patient, si cet examen avait été fait, est-ce que j'aurais fait mon attaque cardiaque? Et le cardiologue a répondu, assurément non, puisque vous étiez déjà en détresse cardiaque et qu'on aurait pu faire une chirurgie beaucoup moins invasive et vous soigner beaucoup plus efficacement si l'examen avait été réalisé à temps. Voilà la morale de l'histoire. Les compagnies d'assurance ont un tel pouvoir qu'elles ont la capacité de nier à un cardiologue des examens d'investigation servant à un diagnostic pour quelqu'un qui souffre du cœur. Alors, des exemples, il y en a non pas 2 ou 3, comme je pourrais en citer là, mais des milliers et des millions. Ça a été révélé d'ailleurs de façon extrêmement flagrante au moment de la pandémie. Parce qu'au moment de la pandémie, et c'est une chose aussi extrêmement commune aux États-Unis, certains soins pratiqués dans la même région, quelquefois, dans le même état des États-Unis, varient du simple, non pas au double, mais au centuple, et même multiplié par 1000 d'une institution à une autre, d'un lieu à un autre, et d'un contexte à un autre. Et donc on a vu par exemple des gens faire des tests Covid à une époque pour une somme très modique, et c'était 1 944 $ dans l'institution de santé voisine. Et c'était facturé par la compagnie d'assurance aux patients de cette manière. Voilà, il y a un exemple. Deux amis au Texas avaient besoin d'un test pour le coronavirus. Dans un cas, la facture, c'était 199 $. On se demande comment c'est possible, hein, mais c'est comme ça aux États-Unis. Et dans l'autre cas, l'autre ami, dans le même état, hein, 6 408 $. Les statistiques sont accablantes. C'est-à-dire, il y a des statistiques qui indiquent que dès que les Américains ont le cancer, ils ont un risque d'endettement extrêmement élevé. Un rapport rendu en 2021 disait que la dette des assurés médicaux aux États-Unis a atteint 140 milliards $, alors qu'elle était de 80 milliards $ en 2016. L'étude révèle qu'en 2021, 18% des Américains ont d'importantes dettes médicales qui vont jusqu'au surendettement, jusqu'à la perte d'une maison, de toutes les économies, etc., etc. Alors, il y a eu une loi qui a été passée en 2021 pour empêcher ce qu'on appelle les « surprise bills », les factures surprises. Parce que aussi dans le système, il se passe une chose, c'est que vous pouvez être hospitalisé dans un hôpital qui est dans votre réseau, c'est-à-dire qui est validé et approuvé par votre compagnie d'assurance, mais l'hôpital peut générer des coûts, des examens, des procédures qui se passent à l'extérieur de votre réseau. Seulement, vous, vous êtes hospitalisé, vous ne le savez pas. Et puis, vous pensez que vous allez être correctement remboursé, plus ou moins. Vous en avez quand même pour des milliers de dollars, hein, c'est assez standard aux États-Unis. Et puis, souvent, des mois et des mois après, arrivent des factures, toujours des factures. Et on a des cas, je lisais un cas il y a quelques heures, de quelqu'un qui avait accumulé pour son papa qui était mort d'une maladie respiratoire 1,6 million de dollars. Alors que ces gens étaient, encore une fois, je le dis et je le redis, ces gens étaient assurés. Alors voilà, j'ai commencé tout à l'heure par parler de cette fameuse paradiastole. C'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles Luigi Mangione va devenir une figure célèbre, instantanément, quasi instantanément, avec toutes sortes de projections fantasmatiques. Une des projections fantasmatiques sur la personne de Luigi Mangione, dont on connaît maintenant le nom, qui vient d'une famille en fait assez aisée, il a fait un très bon lycée, il a fait une très bonne université, University of Pennsylvania, qui est considérée comme une université de la Ivy League. Donc c'est un garçon qui est socialement privilégié, qui a fait de longues études et qui, clairement, avait bien préparé son coup. Il a échappé à la police pendant plus de 5 jours. Et il y a toutes sortes de projections fantasmatiques sur cet individu à partir du moment où toute son identité va être dévoilée. C'est-à-dire qu'on a le profil d'un intellectuel et qui, à chaque fois qu'il apparaît devant les caméras menottées en blouson orange, comme c'est le cas pour les prisonniers dangereux aux États-Unis, comme on sait, on voit ça à la télé, Orange is the New Black, il y a des séries télé sur ça. Luigi Mangione est quelqu'un qui a aussi marqué les esprits parce que il a de l'allure, en fait, il a de l'allure. Voilà un garçon qui est en fait assez élégant, qui est assez éloquent et qui, ça a été dit beaucoup, a généré toutes sortes de fantasmes, y compris, on en a eu quelques-uns, y compris des fantasmes sexuels. Donc, oui, c'est ça Luigi Mangione. On est en train de parler d'une figure d'assassin, d'une figure qui, en même temps, déclenche toutes sortes de fantasmes romantiques. Alors, il est un historien qui, en 1969, va publier un livre qui s'appelle « Bandits »,« Bandits » au pluriel. Son nom, c'est Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm va devenir très célèbre mondialement autour des années 2000, vers 1999-2000, parce qu'il va publier une grande somme, une grosse somme, qui s'appelle « L'âge des extrêmes », l'histoire courte, l'histoire du court XXe siècle, où Eric Hobsbawm fait cette hypothèse qu'en vérité, l'Europe est marquée par une guerre civile qui dure de 1914 jusqu'à 1989, et donc qui couvre les deux guerres mondiales et la guerre froide. Mais Eric Hobsbawm, donc, avant de publier ce maître ouvrage vers 1999 ou 2000, Eric Hobsbawm, je disais, avait publié ce livre qui s'appelle « Bandits »,« Bandits », en 1969. Et il s'était intéressé, dans ce travail, à ces figures qui irriguent l'histoire, l'histoire humaine, de ces bandits aimés, de ces bandits appréciés, de ces bandits respectés. Alors, on les appelle aussi des bandits romantiques ou des « social bandits ». C'est-à-dire, en anglais, on dit « social bandits », ça veut dire des bandits qui ont la fibre sociale, en quelque sorte. Et l'idée, c'était de montrer qu'il y a dans l'histoire, et ça remonte à Robin des Bois, et avant, bien sûr. Mais Robin des Bois, c'est très intéressant, parce que Robin des Bois, voilà quelqu'un qui vole aux riches pour donner aux pauvres, hein, et on en trouve des traces de la légende de Robin des Bois, jusque dans le roman de Renard, qui a été écrit dans les années 1200 et quelques. C'est une histoire orale qui circule à l'époque où on construisait la cathédrale Notre-Dame, par exemple. Robin des Bois, qui donc est une sorte de bandit, une sorte de hors-la-loi, de outlaw, qui en même temps se bat contre la tyrannie, contre l'autoritarisme. C'est aussi le cas de la figure de Carmine Crocco, ce bandit italien qui va organiser toute une bande de 2000 hommes qui vont avoir en commun d'avoir une face sociale assez conventionnelle. Carmine Crocco lui-même était boucher le jour et puis la nuit. Il était brigand, mais il était aussi un héros populaire parce que dans son brigandage, il était opposé à la maison de Savoie et donc faisait partie aussi des figures de la révolution libérale italienne des années 1860. Et il faudrait bien sûr, dans ce contexte, parler de la figure du très grand révolutionnaire qu'est Pancho Villa, héros de la révolution mexicaine, mais qui est aussi se livrer à toutes sortes d'activités criminelles. Bref, il y a énormément de figures dans l'histoire et que c'est une sorte de constante de l'histoire autant, pour autant qu'on puisse dire, d'ailleurs de l'histoire écrite, de l'histoire qui s'écrit, parce que toutes ces figures vont être l'objet de légendes populaires, de légendes urbaines, d'écriture et déclencher l'écriture. Ce qui est d'ailleurs très intéressant dans ce contexte, hein, c'est que, outre le fait, comme je le disais tout à l'heure, qu'on a une paradiastole avec des gens qui sont à la fois criminels pour les uns et héros, respectés, romantiques, révolutionnaires, comme on veut, pour les autres, on a aussi là des figures qui vont déclencher des fantasmes de fiction. C'est-à-dire qu'il y a énormément, évidemment, du Billy the Kid incarné par J.C. James, Robin des Bois, bien sûr Che Guevara et d'autres. Arsène Lupin pourrait peut-être entrer dans cette catégorie. Bref, l'idée du bandit révolutionnaire, du bandit à la fibre sociale. Il me semble que Luigi Mangione va entrer dans cette catégorie. Et alors, la chose par laquelle je voudrais terminer, c'est bien sûr, parce que j'enseignais mon cours il y a quelques jours, où on parle de cette anxiété culturelle et de comment l'anxiété culturelle trouve son chemin dans le cinéma et dans les séries télé, bien, j'ai rappelé à mes étudiants qu'une des séries télévision les plus emblématiques de l'Amérique actuelle, bien sûr, c'est Breaking Bad, que certains ont sans doute vu et certaines aussi. Breaking Bad, qu'est-ce que c'est ? Breaking Bad, c'est l'histoire d'un homme, il est professeur de lycée, professeur de chimie, comme chacun sait, c'est Walter White, professeur de chimie qui, pour échapper à la banqueroute financière personnelle, devient un criminel furieux et ultra-violent. Alors, mais pourquoi il a peur de la banqueroute ? Eh bien parce que Walter White a un diagnostic de cancer et qu'il sait que comme il a le cancer, il n'y a plus d'argent, qu'il va falloir vendre la maison, que son fils ne pourra plus aller à l'université, etc., etc. Donc, peut-être que Breaking Bad, la série la plus populaire américaine, la plus populaire en Amérique des dernières années, peut-être que Breaking Bad est en train de nous dire la raison pour laquelle Luigi Mangione est à ce point vu comme une sorte de héros à la fibre sociale, comme une sorte de Robin des Bois, comme une sorte de Pancho Villa ou de Billy the Kid. Qui sait ?
Bienvenue à ma sweet home, Chicago.